DW, le journal.
Merci de renouveler votre fidélité à la Deutsche Welle. Il est 17h en temps universel, 2h de plus dans nos studios ici à Bonn et partout en Allemagne. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2019, c'est déjà le week-end. Et pour vous y accompagner, Rodrigue Guézodier à la présentation. À suivre dans ce journal, le point d'une journée de manifestation mondiale pour le climat. Une mobilisation pour appeler les adultes à agir contre la catastrophe climatique. L'Allemagne s'est engagée à déployer une stratégie représentant au moins plusieurs milliards d'euros d'investissement d'ici 2030. Et puis le Cameroun prépare son dialogue national dans une ambiance toujours tendue. Bamenda, le chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest, a enregistré des incidents. Et puis le président burundais mis en cause par l'ONU dans des actes de violence des droits de l'homme. C'est un complot de pays étrangers contre Pierre Nkurunziza, rétorque le pouvoir. Mais avant le développement de tous ces titres, on fait un point de l'actualité internationale avec ce soir Marco Volter.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une ce soir, 100 milliards d'euros d'investissement. C'est la somme promise ce vendredi par la coalition d'Angela Merkel pour la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique en Allemagne. Les investissements doivent se faire jusqu'en 2030. L'une des mesures phares du plan, qui doit encore être adopté en Conseil des ministres, est un investissement de 86 milliards d'euros pour rénover les chemins de fer en Allemagne. Voilà une annonce qui tombe pile le jour de la mobilisation planétaire à l'appel du mouvement Fridays for Future.
Une journée de mobilisation qui a notamment rassemblé des centaines de milliers de personnes en Allemagne. Reportage à suivre tout à l'heure dans le journal. Et puis Marco, on passe à l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle en Tunisie.
Et le parti islamiste Ennahda a annoncé officiellement son soutien à Kais Saied, l'universitaire conservateur se présentant comme un candidat anti-système, était arrivé en tête du premier tour dimanche dernier. Il sera opposé au second tour à l'homme d'affaires Nabil Karoui, actuellement en prison pour des soupçons de blanchiment. La justice a d'ailleurs rejeté cette semaine sa nouvelle demande de libération. Le second tour de la présidentielle devrait avoir lieu soit le 6 octobre, soit le 13 octobre. La date est en effet incertaine puisque des recours ont été déposés contre les résultats du vote du week-end dernier.
Et chez le voisin en Algérie, des milliers de personnes sont encore allées battre le pavé contre le pouvoir.
Et ce, malgré le durcissement de ton de l'armée algérienne qui avait interdit aux personnes qui ne sont pas d'Alger de rejoindre la capitale pour aller manifester. Il s'agit du 31e vendredi consécutif de mobilisation, toujours pour réclamer le départ des représentants de l'ancien régime qui tiennent toujours encore les manettes depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Les manifestants rejettent ainsi la date de la prochaine élection présidentielle annoncée cette semaine par les militaires, date du 12 décembre. Ils estiment que l'organisation de ce scrutin n'est pas transparent ni démocratique.
Marco, un nouveau parfum de scandale plane sur Washington.
Et particulièrement sur la Maison-Blanche. Selon des révélations du Washington Post, un lanceur d'alerte aurait signalé une conversation à risque entre Donald Trump et un responsable politique étranger. La discussion douteuse aurait eu un lien avec l'Ukraine. Les rumeurs vont bon train ainsi sur un possible appel du président américain au nouveau président ukrainien pour demander des informations compromettantes sur le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden. Donald Trump lui a répliqué sur Twitter en accusant le lanceur d'alerte d'être à la botte des démocrates et a qualifié ses accusations de ridicules.
Donald Trump qui a enchaîné les annonces tonitruante ce vendredi.
A commencer par la Chine. Le président américain a dit tout à l'heure qu'il ne pensait pas aboutir à un accord dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à Pékin. Du moins, pas d'accord avant l'élection de 2020 où il espère décrocher un second mandat à la Maison-Blanche. L'autre déclaration concerne l'Iran. Là, Donald Trump a annoncé de nouvelles sanctions contre le système bancaire iranien et notamment contre la banque centrale du pays. Des sanctions qu'il a qualifiées comme étant les plus sévères jamais imposées à un pays.
Nous sommes à 6 semaines de la date prévue du Brexit et on ne voit toujours pas le début d'une percée à Bruxelles pour trouver un accord.
Oui, le temps n'a quasiment pas changé depuis le début de cette semaine. Londres a dit ce vendredi voir un élan dans les discussions avec Bruxelles pour éviter une sortie sans accord. C'est ce qu'a expliqué le ministre britannique du Brexit à la sortie d'une rencontre avec le négociateur de l'Union européenne, Michel Barnier. Mais voilà un optimisme qui n'est pas partagé par les Européens pour qui il y a, je cite, encore beaucoup de travail à faire. Il a donc était convenu que des discussions techniques allaient se poursuivre la semaine prochaine.
Marco Volter pour les Nouvelles du Monde. On vous retrouve tout à l'heure avant la page sportive pour l'Afropresse, l'actualité africaine traitée par la presse allemande. Pour l'instant, il est 17h, bientôt 5 minutes en temps universel et vous écoutez toujours la DW.
DW.
On en parlait ce matin, mobilisation à travers le monde entier aujourd'hui pour le climat. Plus de 5000 événements se déroulent tout autour de la planète depuis ce matin. Rassemblements et défilés, notamment à l'appel du mouvement des écoliers Friday for Futures, auquel étaient appelés à se joindre les adultes. Dans certains pays du monde, les syndicats ont même appelé à la grève. Ce n'était pas le cas en Allemagne, où cela est interdit pour des raisons juridiques. Mais de nombreux travailleurs se sont tout de même mobilisés, comme à Bonn notamment, tout près de la Deutsche Welle, devant le siège des Nations Unies, Hugo Flotatalon.
Midi pile devant le bâtiment des Nations Unies, carton rouge pour le climat dans les mains, banderoles colorées déployées sous le soleil. Près de 200 personnes sont réunies sur fond de musique. Une lycéenne prend alors le micro, très émue.
Au mois de juin, j'ai participé à un échange scolaire avec des jeunes de Port-Elisabeth. Ils ont raconté la sécheresse, le manque d'eau. Et ça m'a terriblement choquée.
Remise de ses émotions, Anna, 17 ans, se réjouit que ses aînés prennent part aux manifestations aujourd'hui.
Ils sont forcément plus crédibles. On croit malheureusement plus les adultes. On l'a vu dans la façon dont les médias parlaient de Fridays for Future tout au début.
À deux pas, en costume, Till, employé d'une ONG située non loin du lieu de la manifestation. Il estime aussi qu'il est temps que les adultes prennent le relais des écoliers.
Ça donne forcément une pression plus importante et montre que les parents, les adultes réfléchissent et se font aussi du souci. Les écoliers ont déjà réussi une mobilisation incroyable, il faut les remercier. Les mesures sur le climat que le gouvernement fédéral doit présenter, ce sont eux. Tout cela, c'est Fridays for Future.
Derrière lui, Elvira a quitté son bureau durant la pause déjeuner. Elle est venue manifester main dans la main avec ses deux enfants de 6 et 8 ans et elle a un message pour le gouvernement fédéral.
La sortie du nucléaire annoncée par Angela Merkel était un très bon signal. Mais depuis, il y a eu peu de mesures annoncées. On espère désormais qu'il va se passer des choses.
Hasard du calendrier, en Allemagne, le gouvernement a présenté cet après-midi une série de mesures pour réduire les émissions de gaz carbonique dans le pays d'ici 2030. Les objectifs annoncés sont de toute façon trop bas, disaient déjà certains manifestants ce midi.
Et au sujet des mesures prises par le gouvernement de la chancelière Angela Merkel, dont parlait Hugo à l'instant, il s'agit d'un paquet d'au moins 100 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030. Le gouvernement compte dépenser 54 milliards d'euros pour les 4 premières années du plan d'ici 2023. L'Allemagne s'est aussi fixée pour objectif de mettre sur les routes 7 à 10 millions de voitures électriques d'ici 2030, de diminuer le recours au vol intérieur et favoriser le transport ferroviaire. Le prix du gazole et de l'essence devrait augmenter dans les années à venir, en particulier au fait d'un nouveau système de tarification des émissions du CO2. Les installations de chauffage au mazout seront proscrites à partir de 2026 dans les bâtiments où la production de chaleur respectueuse du climat est possible. Le climat africain n'est pas resté en marge de cette journée d'action destinée à mettre en garde contre l'imminence de la catastrophe environnementale. En Ouganda, par exemple, un pays doté de trésors naturels mais très affecté par le réchauffement climatique, des centaines de jeunes soutenus par des adultes appartenant pour certains à des groupes de défense de l'environnement se sont réunis, comme d'ailleurs au Kenya voisin, pour demander que le monde agisse contre le changement climatique.
Téléchargez notre application dw.com/appli.
Au Cameroun, alors que les préparatifs pour le dialogue national convoqué par le président Paul Biya se poursuivent, des incidents ont eu lieu tôt ce matin dans la ville de Bamenda. C'est le chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest. Des échanges de coups de feu ont été entendus près de l'hôtel Ayaba, un hôtel qui héberge depuis hier le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, et des hauts responsables de son ministère. Ceux-ci sont sur place pour discuter de la sécurité avec l'ensemble des préfets de la région. Constance Fischer, bonsoir.
Bonsoir, Audrey.
Vous êtes avec nous dans ce studio. En sait-on un peu plus ce soir sur ces incidents ?
Eh bien, on sait que cet après-midi, en tout cas, le ministre de l'administration territoriale était encore à Bamenda, que les échanges de tirs, bien que nombreux, n'ont a priori pas fait de victimes et que, assez rapidement, les habitants de la ville ont repris leurs occupations. Des informations qui nous proviennent du correspondant de la Deutsche Welle sur place et qui sont confirmées par ce témoignage du docteur Louis-Marie Beignet. Il est délégué régional de la communication du Nord-Ouest.
Il y a eu beaucoup d'échanges de coups de feu très tôt ce matin, à partir de 5h, 5h15 jusqu'à presque 6h du matin. Il y en a aussi des coups de feu qui ont été signalés du côté du centre-ville. Il y avait d'un côté des détonations de l'armée régulière avec des armes conventionnelles et de l'autre des détonations des sécessionnistes qu'on reconnaît également à travers leurs petites armes de fabrication généralement artisanale. Dans la matinée, la reprise des activités a été un peu timide parce que les gens avaient peur. En ce moment, j'ai fait un tour, tout est ouvert, donc l'activité a repris, il n'y a pas de militaires dans les rues.
Le délégué régional de la communication précise que la ville de Bamenda a accueilli hier une réunion pour organiser la distribution de l'aide humanitaire aux déplacés internes de la crise anglophone. Mais les tirs ayant eu lieu plusieurs heures après la fin de cette réunion, qui s'est par ailleurs déroulée à huis clos, il est difficile d'établir un lien entre les deux événements.
Oui, Constance, ce qui est sûr, en revanche, c'est que ces incidents interviennent à quelques jours du lancement du dialogue national, un dialogue voulu par le président Biya.
Oui, un dialogue qui a pour objectif de régler le conflit anglophone, donc, mais dont les contours restent flous pour le moment. Surtout, les Camerounais des régions concernées se demandent quelles pourront être les conclusions de ce qui risque de se transformer en monologue, puisque la plupart des séparatistes, qu'ils soient radicaux ou modérés, ont déjà annoncé qu'ils ne prendraient pas part aux discussions. Johannes Strahl travaille pour la branche allemande de la mission protestante Basler. Il résume les choses ainsi.
Lorsque je parle avec des gens sur place, ils disent qu'un vrai dialogue ne pourra avoir lieu que si le gouvernement libère ceux qu'il a arrêtés arbitrairement et qui sont aujourd'hui en prison parce que soupçonnés d'être des séparatistes. Il n'y a que comme cela que l'opposition pourra reconstituer ses rangs avec des gens capables et honnêtes et qu'elle pourra ensuite être en position pour négocier.
Et à noter, Roderick Günther-Nau, que le conseiller personnel pour l'Afrique de la chancelière Angela Merkel se rendra dans quelques jours au Cameroun. Des entretiens sont prévus avec le gouvernement, mais aussi des représentants de l'opposition et de la société civile.
Merci à vous, Constance. On rappelle qu'à ce jour, les affrontements entre séparatistes et forces de sécurité ont fait plus de 2000 morts, selon l'organisation Human Rights Watch. Plus de 530 000 personnes ont par ailleurs dû quitter leur domicile, selon l'ONU. Au Cameroun, toujours, l'interpellation d'un enseignant suscite toujours des commentaires. Cet enseignant qui a consacré en classe un débat au dialogue dans son pays a suggéré que si les groupes armés sont invités au dialogue, il n'y a pas de raison que l'opposant Maurice Kamto en prison n'y soit pas invité. Mireille Donne, bonsoir.
Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous.
Qu'en disent nos abonnés sur les réseaux sociaux?
Eh bien Romaric, du Cameroun n'est pas du tout surpris par cette interpellation. Le Cameroun est un état policier depuis le coup d'état de 1984, écrit-il. Voici un pays où un sous-préfet a le pouvoir sur d'autres administrateurs, en particulier les enseignants et les médecins, un pays où un soldat a plus de pouvoir qu'un intellectuel diplômé d'une grande école ou université. Et il craint qu'une telle politique conduise le pays vers la guerre civile. Dans ce cas, même les militaires ne seront plus en sécurité, prévient-il. Selon Latif du Togo, c'est du mépris ou bien la peur de Maurice Kamto qui explique ce geste des autorités. De toutes les façons, cette fébrilité des autorités camerounaises montre que la liberté d'expression a du chemin à faire dans ce pays. Mais Théodore, du Tchad pense que le sujet de l'opposant Maurice Kamto ne devrait pas être tabou.
Le pouvoir actuel est en train de le faire courir en prison, ce n'est pas normal. C'est un opposant, c'est un Camerounais comme tout autre Camerounais. Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Il a seulement des opinions diverses et la démocratie est définie aussi comme étant l'acceptation de la contradiction. Raison pour laquelle il est important que les autorités acceptent de le libérer puisque c'est ça aussi la démocratie.
C'est grave, vraiment, ce qui se passe au Cameroun, nous écrit encore David de Gauman, RDC. Même dans notre pays, nous avons connu des gouvernements d'oppression, mais jamais cela. Au Cameroun, ils exagèrent, estime notre abonné.
Merci Mireille Drone. Mireille Drone, dans la première partie de son exercice, on la retrouve dans quelques petits instants avec d'autres commentaires sur tout un autre sujet. Et si vous souhaitez vous aussi commenter l'un des sujets que nous développons, c'est très simple sur notre page Facebook.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
En bref, l'armée nigériane a accusé ce vendredi l'organisation non gouvernementale Action contre la faim des délais terroristes en leur fournissant nourriture et médicaments dans le nord-est du Nigeria, une région en proie à une insurrection djihadiste où les militaires ont fermé les bureaux de l'ONG française. Au Nigeria, toujours enquêtant sur les meurtres d'au moins 8 femmes dans les hôtels de la ville du port Harcourt. Dans le sud-est, la police donc a arrêté jeudi un homme présenté comme un des tueurs en série dont les actes enflamment la toile depuis plusieurs semaines. Gracious David West, c'est son nom, l'assassin de 26 ans qui aurait avoué les crimes. Il vient de l'état de Rivers et aussi un membre. Il est membre donc du culte d'Egbam, un groupe pratiquant la magie noire à des fins criminelles. Au Burundi, le Burundi à présent, où la Commission des droits de l'homme de l'ONU met directement en cause le président de la République dans des actes de violence, de violation des droits humains. Face à cela, le pouvoir burundais répond qu'il s'agit d'un complot de pays étrangers, un complot destiné à déstabiliser le président Pierre Nkurunziza. Des précisions avec vous, Henri Fautso.
La Commission des droits de l'homme de l'ONU épingle effectivement les services de sécurité du Burundi et des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure. Selon ce rapport, le gouvernement burundais et sa milice ont perpétré des violations massives des droits humains au cours de l'année 2018, notamment des exécutions sommaires, des viols, des enlèvements, des passages à tabac et des actes d'intimidation à l'encontre d'opposants politiques. La Commission des droits de l'homme indique que la plupart de ces exactions ont eu lieu avant le référendum constitutionnel qui donne désormais au président Pierre Nkurunziza la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Suite à ce rapport jugé accablant, nous avons joint l'ambassadeur Thabo Renovat, représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies à Genève.
Dans un premier temps, je dois vous dire que le Burundi n'est pas accablé par ce rapport parce que c'est un rapport habituel au regard de son contenu. Donc, il n'y a rien qui puisse accabler le Burundi.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a pourtant fait état jeudi d'une augmentation des actes d'intimidation et des cas de représailles à l'encontre des militants des droits de l'homme ou des membres de la société civile au Burundi. Le Conseil des droits de l'homme avait mandaté une commission d'enquête qui a signalé que les violations graves avaient continué à être commises en 2017 et 2018. L'ambassadeur Thabo Renovat attaque ce rapport dans le fond et dans la forme.
Cette commission a été mise en place dans des circonstances de pure injustice parce que le Burundi n'a jamais été écouté, dans son sens qu'elle se fondait sur un rapport qui venait d'être établi par l'enquête indépendante des Nations Unies. Un rapport qui contenait beaucoup de mensonges que le Burundi a fustigé.
Parmi les accusations portées contre le régime en place à Bujumbura figure la suspension d'environ 130 ONG internationales par le Conseil national de sécurité du Burundi. Le Burundi fait partie des 48 pays épinglés par le rapport 2019 des Nations Unies sur les droits de l'homme.
On évoquait l'ONU. L'organisation a indiqué ce vendredi que quelques 1500 migrants et réfugiés en Afrique du Sud ont dû abandonner leur foyer pour fuir les violences xénophobes qui ont frappé les étrangers de ce pays au début du mois. Environ 800 d'entre eux, pour la plupart originaires du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe, ont cherché refuge dans des salles communes dans un township de Johannesburg, a détaillé un porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les autorités nigérianes, elles, ont annoncé que près de 200 Nigériens sont déjà rentrés, c'était la semaine dernière, et 300 autres mercredi. En bref encore, dans un rare message audio diffusé jeudi soir, le chef des extrémistes islamistes somaliens, Shebab, Ahmed Diri, voilà c'est son nom, accuse les pays occidentaux de vouloir piller les ressources naturelles de la Somalie et dénonce les prétentions du Kenya sur les eaux maritimes somaliennes. En RDC, un chef rebelle, Frédéric Massoudi Alimassi, alias Coco di Coco, c'est son nom, poursuivi pour des viols massifs en 2018 dans l'est du pays, a comparu aujourd'hui aux côtés de deux de ses quatre co-accusés dans un procès qui a démarré le 12 septembre avec, parmi les parties civiles, la fondation du prix Nobel de la paix du 2018, Denis Mukwege. Cela fait 40 ans aujourd'hui que Jean-Bédel Bokassa, en Centrafrique, était renversé au cours d'une opération militaire conduite par des parachutistes français. Aujourd'hui, les Centrafricains se souviennent souvent avec nostalgie de l'empereur Bokassa Ier, en dépit de ses folies, devenu président de la République en 1966, puis empereur en 1977. Celui-ci aura régné 13 ans sur la Centrafrique. Jeff Murphy, Barès.
13 années de règne diversement appréciées par la population. Tita Samba Solé, un des gardes rapprochés de l'ex-empereur, envoyé en prison car suspecté de courtiser l'une des maîtresses de ce dernier, en garde un souvenir noir.
J'ai fini ma formation de commando au Caire. Malheureusement, j'ai terminé ma carrière en prison. Tout simplement, je faisais comme par hasard partie des jeunes gens de notre époque, arrêtés pour avoir fait des yeux doux à son épouse, la Roumaine, qui était à la Villa Colongo. Mais ma raison, c'était tout simplement parce qu'on pensait que j'étais un pion de l'Égypte à travers l'Égypte, les États-Unis d'Amérique pour faire un coup d'État.
Malgré tout, l'homme reste un grand admirateur de l'ex-empereur car voyant en lui un patriote hors pair.
Jusqu'aujourd'hui, si je vous dis que certains bâtiments n'ont même pas pris un pinceau après Bokassa, vous allez sourire, mais c'est la vérité. Ceux qui ont succédé à Bokassa, s'ils avaient un réflexe, devraient un peu copier. Bokassa utilisait sa finesse, son intelligence, la ruse pour demander de l'argent. Je vous cite l'exemple de la Libye. Bokassa a usé de la ruse pour être Salah Adin Mohamed Bokassa, mais c'est pas à son bénéfice, c'est au bénéfice de la RCA.
Un autre nostalgique de cette belle époque est Maître Denis Moudemadé. Aujourd'hui avocat, député et juge à la Haute Cour de justice, il reste l'un des membres influents du clan de l'ex-empereur Jean-Vidal Bokassa.
Il tenait tellement à la scolarisation des enfants. Mais les contextes ont beaucoup changé. Et je le regrette amèrement parce que tous ceux qui sont à la tête de notre état actuel ont été à l'école. On a des mathématiciens, des grands universitaires à la tête du pays. Mais l'école aujourd'hui, dans les provinces, il n'y a plus d'enseignants.
Bokassa Ier, encore appelé président à vie des Centrafricains, est, 40 ans après sa chute, toujours présent dans les mémoires de ses compatriotes pour tout ce qu'il a construit. Jeff Murphy Barès Abangui pour la Deutsche Welle.
En bref, au Burkina Faso, au moins 5 soldats burkinabés ont été tués dans la nuit d'hier à ce vendredi dans une embuscade dans le nord-ouest du pays, tout près de la frontière malienne. C'est ce qu'on a appris de sources sécuritaires. En Côte d'Ivoire, un nouveau décret rend la vaccination des femmes enceintes et des bébés obligatoires. Le nouveau décret prévoit donc des sanctions pour tous ceux qui refusent délibérément les soins médicaux préventifs et punit aussi celui qui vend les vaccins visés par le décret Mireille. Nos abonnés ont aussi réagi à ces réticences assez répandues en Afrique à se faire vacciner.
Oui, Latif Delomé trouve que cette décision est à saluer. Ici au Togo, la vaccination des femmes enceintes et des nouveau-nés est une réalité, nous rapporte-t-il. Si certaines populations sont réticentes à la vaccination, c'est que l'OMS elle-même est floue sur certaines anomalies, reconnaît-il. Mieux vaut prévenir que guérir, souligne encore Bewezima du Togo. Il n'en doute pas, c'est dans le souci de prendre soin de la population que les autorités ivoiriennes ont pris ces dispositions. Il s'agit de préserver la santé et de réduire le taux de mortalité infantile et de la mère, observe-t-il. Et Héro du Bénin pense aussi que c'est une bonne initiative.
Depuis qu'on a commencé par faire ces vaccins, il y a beaucoup de maladies qui sont parties, qu'on ne trouve plus. Si vous ne le faites pas, ça s'aggrave. Ça s'augmente dans le pays. L'initiative, si on peut le mettre en pratique rigoureusement, je pense que ce serait la meilleure solution. S'ils peuvent faire des comités avec les conseillers de village local pour y avoir un suivi rigoureux, si une femme tombe enceinte, on vérifie pour voir si elle a fait le vaccin, ce serait très bon.
En revanche, d'autres sont critiques, Mireille.
Oui, certains comme Apache de Lomé ou Josepha de Boya au Cameroun soulignent que certains sont toujours réfractaires au vaccin parce qu'ils pensent que ce sont des tests qu'ils amènent en Afrique pour voir les résultats ou alors qu'ils sont faux et porteurs de maladies. Du coup, Fidel de RDC suggère que ce soit les autochtones qui fassent les vaccinations et pas des gens venus d'ailleurs parce que la population n'a pas confiance en eux.
L'OCDE a rendu un rapport cette semaine qui contredit l'image d'une invasion de l'Europe par les migrants africains. En 2018, seuls 300 000 Africains auraient rejoint un des 36 pays de l'OCDE sur un total de plus de 5 millions de migrants à l'avoir fait. Dans le top 50 des pays d'origine des migrants, on ne retrouve que 4 pays africains. 4 pays africains, donc on écoute ce qu'en dit Jean-Christophe Dumont. Il est le chef de la division des migrations internationales de l'OCDE, interrogé par Reliou Koubaka.
Le premier pays africain apparaît en 18e position et il s'agit du Maroc, avec près de 100 000 personnes qui sont rentrées dans les pays de l'OCDE en 2017-18. Le deuxième pays africain loin derrière, c'est le Nigeria, avec 71 000 personnes recensées. Et ensuite, on retrouve encore beaucoup plus loin l'Égypte et l'Érythrée, avec un petit peu plus de 30 000 entrée en 2017-2018.
Du coup, ça dément les idées reçues sur l'afflux des immigrants africains vers l'Europe. Pour vous, comment se fait-il que ces idées-là soient toujours répandues alors ?
L'Afrique est sous-représentée dans les flux migratoires et elle l'est finalement de plus en plus, même si cette immigration en provenance d'Afrique a pu s'accroître. Je pense que ce décalage vient d'un autre décalage, du fait que disons, l'attention est portée très largement sur les gens qui risquent leur vie pour traverser la Méditerranée. C'est une part de la migration qui est très réduite. Parmi les 5,3 millions de migrants dont on parlait précédemment, sont tous des personnes qui rentrent de manière légale avec un titre de séjour dans les pays de l'OCDE. En revanche, évidemment, ceux qui traversent la Méditerranée pour venir demander l'asile sont très visibles et finalement assez peu nombreux, puisque ce n'est pas plus de 50 000 personnes en 2019. Un chiffre qui est en nette réduction ces dernières années. Mais cette focalisation donne l'impression que d'une Europe assiégée avec des gens qui seraient prêts à risquer leur vie pour l'atteindre. La réalité des flux migratoires est tout autre. Elle est d'abord légale et effectivement, elle n'est pas essentiellement d'origine africaine.
Ils vont moins dans les pays de l'OCDE qu'ils ne vont dans les pays africains. L'immigration est plus en Afrique en fait.
Effectivement, on peut dire que la migration originaire du continent africain, elle est principalement intracontinentale à l'intérieur du continent.
On retrouve à présent l'Afropresse qui nous conduit au Soudan pour comprendre un peu plus le système Omar el-Béchir. Bienvenue dans l'antre de la dictature, nous dit le journal, avec ce procès qui offre un aperçu incroyable du fonctionnement du système el-Béchir. Dans la salle d'audience du tribunal, l'ancien dictateur est placé dans une cage, des images qui doivent signaler à la population que la vieille élite va devoir répondre de ses actes. Dans le cas d'Omar el-Béchir, on parle de valises de cash, des 8 millions d'euros qui ont été retrouvés à la résidence de l'ex-président après sa chute. Il y a ainsi l'ancien chef de cabinet qui raconte comment il a réceptionné 22 millions d'euros en liquide à l'aéroport, un cadeau du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. La défense assure que cet argent a servi à acheter du carburant et des céréales pour le pays. Il y a aussi le cas de l'ancien chef de bureau du ministère de la Défense qui explique avoir perçu plus de 4 millions d'euros comme don pour l'armée. Il se trouve que cet homme dirige désormais le bureau du général Abdel Fattah al-Burhan, qui n'est autre que le nouveau président du conseil de transition soudanais. Alors on se demande, conclut Die Welt, comment un tel personnage peut obtenir un poste de prestige dans la reconstruction d'un nouveau Soudan. Du système el-Béchir, on passe au système des faux passeports diplomatiques africains. Cette fois, on est en Allemagne et c'est Der Spiegel qui nous raconte cette affaire. Des Allemands aux CV douteux ont réussi à se procurer des passeports diplomatiques de la part d'États vivant dans une extrême pauvreté. Parmi les récipiendaires, des criminels connus qui espéraient certainement qu'une immunité diplomatique les protégerait de la police ou de la justice. Dans cette vaste enquête, les regards se tournent notamment vers la Guinée-Bissau. Régulièrement, la police signalait des infractions dans lesquelles étaient impliqués des diplomates de ce pays. Et souvent, il s'agissait de citoyens allemands qui agitaient leur passeport diplomatique devant la police en misant sur leur soi-disant immunité. Voilà qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs avant qu'une personne soit arrêtée à l'aéroport de Francfort avec, non pas une valise pleine de cash, mais une valise, cette fois, pleine de passeports diplomatiques. Et on retrouve sans transition les sports avec Fiacrandai Raguijé qui nous présente les affiches de la 5e journée de la Bundesliga.
Leipzig se déplace samedi dans le nord-ouest de l'Allemagne pour affronter le Werder Bremen. Les hommes de Julian Nagelsmann réalisent un bon début de saison avec 10 points au terme des 4 matchs du championnat. Leipzig reste ainsi le seul club à n'avoir pas jusqu'à présent encaissé de défaite. Leipzig s'est également illustré mardi à Lisbonne, au Portugal, 2-1 contre le Benfica lors de la première journée de la Ligue des Champions. Auteur d'un doublé à Lisbonne, Timo Werner s'impose parmi les meilleurs buteurs dans le championnat, 5 buts depuis le début de la saison. De quoi donc inquiéter son adversaire, le Werder Bremen. Le Borussia Dortmund est pour sa part attendu dimanche à Francfort. Le week-end dernier, le club de la Ruhr a largement dominé 4-0 le Bayer Leverkusen. Mais la bataille s'annonce rude face aux Aigles de Francfort, humiliés 3-0 jeudi à domicile par Arsenal dans le cadre de la Ligue Europa. Une autre affiche de prestige oppose samedi le Bayern Munich au FC Cologne. Le Bayern, le club le plus titré d'Allemagne, a été accroché à deux reprises. D'abord en ouverture de la saison contre le Hertha Berlin et le week-end dernier contre Leipzig. Avec 8 points, les Bavarois sont provisoirement 4e à deux longueurs de Leipzig. Face au promis FC Cologne, Manuel Neuer et son groupe pourraient espérer une victoire à domicile. Bayern FC Cologne, une rencontre qui sera retransmise sur nos ondes par Sophie Serbini et Ali Farhat samedi à partir de 13h25 temps universel.